Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Eh ben bonjour Nicolas, et puis bonne année 2024 pour toi et puis pour tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, on
Eh
va
bien oui,
dire.
écoute, bonne année à toi aussi, plein de bonnes choses pour 2024. Et puis, bien évidemment, j'adresse également tous mes voeux à nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent assidûment tous les deuxièmes, pardon, jeudi de chaque mois sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, l'émission d'Attaque Marseille.
Voilà, et puis justement, ben, on va se souhaiter que Attaque Marseille, non seulement continue, mais se dynamise un peu avec des nouveaux adhérents, des nouvelles adhérentes, tout plein d'idées à proposer pour multiplier les initiatives et les luttes dans ce monde un peu pourri où l'on se trouve actuellement. Il y a quand même, bon, il y a des raisons de désespérer, hein, parce que ben, on va en parler longuement, je pense, au cours de cette émission. On a terminé l'année avec une des pires lois qu'on ait eues depuis longtemps, la loi, je veux parler de la loi Borne-Darmanin, qu'on appelle aussi Macron-Le Pen, ou tu vois, hein, qui est une loi très inspirée de l'extrême droite et des
Salué
thèses de
d'ailleurs par
l'extrême
l'extrême
droite,
droite. V
votée, votée par
voter.
l'extrême droite, et saluée aussi. Bon, et donc, bon, on espère bien qu'elle sera jamais promulguée, cette loi, et on va tout faire pour. On vous en parlera plus longuement.
Et puis donc, comme tu le disais, ben,
On avait commencé.
plus on sera
Ouais.
nombreux à participer aux mobilisations, ben forcément, plus on aura la force nécessaire pour faire reculer ce gouvernement et exiger l'abrogation de cette loi, ou en tout cas que le président ne la promulgue pas, puisqu'il faut attendre encore l'avis du Conseil constitutionnel. Mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc, on appelle les auditeurs et les auditrices à rejoindre Attaque et à renforcer notre collectif pour pouvoir lutter contre cette loi, puisque c'est une des luttes qui va être les plus imminentes, mais on va voir aussi qu'il va y avoir d'autres mobilisations tout au long de l'année, et on sera bien évidemment jamais assez nombreux pour pouvoir mener toutes ces luttes.
Voilà, il y a quand même donc des raisons d'espérer avec des luttes qui se mènent, qui durent, qui continuent. Bon, dans les désespérances, il y a bien sûr les guerres, hein, que ce soit en Ukraine, en Palestine ou ailleurs, mais il y a aussi des mobilisations qui continuent sur ces sujets-là, en particulier sur la Palestine, et qui montre, enfin, qui ne qui se maintiennent alors que c'est souvent difficile de se maintenir sur le long
Sur le
terme,
long terme,
hein,
c'est ça.
et surtout sur des thèmes internationaux. Donc bon, c'est important de le dire. Et puis il y a des mobilisations avec les soulèvements de la terre aussi, hein, qui ont continué, qui se multiplient un peu partout, avec une jeunesse qui veut pas voir son avenir complètement saturé, réchauffé, désertifié, et qui essaye de se mobiliser au quotidien. Voilà. Alors, on aimerait bien que ça soit dans l'attaque, c'est pas toujours dans l'attaque, mais il y a quand même des choses qui se passent.
Et puis c'est aussi une année où les luttes féministes vont se poursuivre avec déjà, on peut peut-être en parler, une date qui arrive très très rapidement, puisque je crois que c'est le 11 janvier. Tu peux nous expliquer un petit peu qui a appelé, comment, sous quel mot d'ordre, etc.
Oui, alors je vais rechercher
Oui, bon, après.
Papidos, notre site.
Pour faire simple, c'est quand même suite aux échanges qui ont lieu dans la presse entre tribunes interposées avec d'un côté le clan Depardieu et puis de l'autre la tribune de Libération qui répondait justement à cette tribune qui était extrêmement conservatrice et qui confortait Gérard Depardieu dans
Serment.
ses actes. Voilà, exactement, exactement.
Et contre Macron et le soutien
Et
qu'il a
oui,
apporté à
clairement,
Depardieu.
à Depardieu,
Alors
voilà.
pour le 11 janvier, attaque a en fait deux mobilisations, hein, puisque c'est, tu t'en rappelles peut-être, le procès à Lyon
Oui.
du commissaire Rabasouchi, qui est celui qui avait ordonné la charge policière ayant gravement blessé Geneviève Le Guay. Ça s'était passé le 23 mars 2019 à Nice. Lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Ce procès, donc, c'est quand même très rare hein, qu'un responsable, celui qui a ordonné une charge policière, soit inculpé, quoi. Et c'est important bon, de se mobiliser pour que ce procès ben, donne une condamnation, quelque chose qui soit en fait un procès des violences
Des violences
policières,
policières,
voilà,
oui, ça va être
de toutes les
toute la...
violences policières.
Exactement, et c'est ça qui est... Puis d'ailleurs, on peut rappeler aux auditeurs et auditrices qui peuvent consulter en podcast l'émission, je dirais, d'octobre, où justement, on avait interviewé Geneviève Le Guay, qui nous avait expliqué un petit peu tout le cheminement de sa lutte, hein, tout simplement, hein, des événements jusqu'à la période judiciaire. Voilà, donc c'est intéressant de se... voilà, de comprendre un petit peu toute cette affaire et surtout de comprendre l'importance de cette affaire dans la lutte contre les violences policières, puisque comme tu le disais et comme je le rappelle, ça sera très certainement, si en tout cas Geneviève a gain de cause, un vrai procès contre les violences policières en France qui serait une grande victoire.
Voilà. Et Geneviève, donc, est partie civile hein, dans ce procès. On dit souvent le procès Geneviève Le Guay, mais
Oui.
elle est, elle, partie civile. Et puis, la deuxième mobilisation de ce jour-là, ben là, il n'y a pas besoin d'aller à Lyon. Il y en aura partout, soit devant les palais de justice, soit devant les préfectures. C'est un appel national. Donc, gardez votre vieux monde. Nous en voulons un sans violence sexiste et sexuelle. Pour Marseille, donc, le rassemblement se tiendra devant le palais de justice le jeudi 11 janvier à 18 h. Le palais de justice, donc, c'est l'esplanade où il y a les bassins, hein, parce que maintenant, il y a plusieurs palais de justice. Nous sommes féministes, nous sommes de celles qui reçoivent les paroles des victimes chaque jour, de celles qui ne veulent plus compter les viols, les incestes, les féminicides, les agressions sexuelles et sexistes, de celles qui ne cessent de prôner la transformation de nos politiques publiques pour en finir avec toutes les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. Nous dénonçons, nous agissons, nous luttons sans relâche contre ce fléau, nous écoutons les paroles des victimes. Leurs drames ne sont pas des fictions. Nous sommes solidaires et déterminés face à cette réalité qui touche toutes les femmes, qu'elles soient célèbres ou non. Nous sommes fiers de chacune d'entre nous, de celles qui parlent et de celles qui ne peuvent pas. Dans ce monde qui laisse les victimes dernières de cordée sans justice, nous croyons à la présomption de sincérité. Emmanuel Macron a tranché au plus haut sommet de l'État, à l'image de son bilan en la matière. Il y a la présomption d'innocence. Gérard Depardieu rend fière la France. Il dénonce une prétendue chasse à l'homme exercée contre l'acteur dont il est un grand admirateur, dissimulant volontairement le fait qu'il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle et occultant les nombreux témoignages existants sur son attitude sexiste et dangereuse à l'encontre des femmes sur les plateaux de tournage. Le président n'a pas eu un mot de solidarité à l'égard des victimes présumées et pas le moindre regard critique sur les propos et agissements répréhensibles relevant de la justice, dont tout le monde a été le témoin grâce au reportage de complément d'enquête. Ce choix assumé de se tenir du côté d'un auteur de violence, venant d'un président de la République, garant des institutions, invalide la parole des plaignantes et entrave le recours à la justice. Anéantit leurs espoirs de reconnaissance du préjudice subi, contrarie leurs tentatives de reconstruction. Autoproclamé champion de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président Macron s'avère être ni plus ni moins un défenseur des agresseurs présumés. Déjà, en décembre 2021, pendant l'affaire Nicolas Hulot, il discréditait les féministes en les comparant à une société de l'Inquisition, faisant d'elles des bourreaux, là où elles sont en réalité victimes ou défenseurs de ces dernières. Relisons tous les témoignages individuels. Chacune d'entre nous sait de quoi il s'agit quand nous disons MeToo, la violence patriarcale s'exerce sur nous au quotidien, quel que soit notre âge, notre métier, notre condition sociale. Pour rappel, les mis en cause dans ces affaires sont à 96% des hommes, les femmes et les filles représentent 86% des victimes de violences sexuelles, et parmi toutes les victimes, 56% sont mineures. Nous dénonçons de nouveau aujourd'hui ces chasseurs qui nous voient comme leur proie, qui nous pensent à leur disposition, qui supposent que le sexe et la violence se confondent à leur profit et pour leurs prétendus besoins. Nous voulons que cessent rapidement les laissez-faire et les passe-droits, car les agresseurs n'existent pas qu'au cinéma, ils sont aussi présents dans notre quotidien, ce quotidien dont la violence est validée et acceptée par le président de la République. Un vieux monde revendiqué par une tribune qui met un J majuscule à justice en méprisant les victimes et en défendant un homme qui pense au clitoris d'une petite fille quand elle fait du cheval. Les signataires savent ne prendre aucun risque. Seul 1% des plaintes pour viol aboutit à une condamnation. La défaillance de notre système judiciaire nourrit l'impunité. Les féministes contemporaines luttent jour après jour depuis les années 70 contre les violences faites aux femmes, aux minorités de genre et aux enfants. Elles soutiennent celles et ceux qui les subissent dans leur long cheminement vers la reconstruction après avoir vécu l'indicible. Les victimes qui ont fait le choix de recourir à la justice se heurtent bien souvent à un système qui refuse de les entendre, de les comprendre, de les croire et de les reconnaître. Depuis MeToo, la tolérance sociale reculait, des progrès étaient accomplis. Ne laissons pas anéantir ces progrès par des propos irresponsables, graves et sexistes du président de la République qui a porté atteinte aux droits des victimes et aux droits de toutes les femmes et des enfants. Le vieux monde doit disparaître. Ne laissons pas ceux qui ont peur de le perdre défendre ces vestiges pourrissants. Nous continuerons à défendre avec détermination les droits des femmes à disposer de leur corps et leur droit à une vie digne, débarrassée des violences sexistes et sexuelles, une vie dans laquelle chaque agresseur, quel que soit son statut, ne pourra se retrancher derrière une quelconque immunité. Voilà.
Excellent texte.
Donc, ben, tout ça, hein, le 11 janvier à 18h devant le palais de justice de
Devant le palais de
Marseille.
justice.
Gardez votre vieux monde, nous en voulons un sans violence sexiste et sexuelle.
Et donc ça sera le 11, et puis on peut continuer sur l'agenda des luttes, puisque 3 jours après aura lieu la manifestation contre la loi immigration de Darmanin Macron RN, je ne sais pas comment on peut la nommer, qui aura lieu donc départ à 14h à la Porte d'Aix. Peut-être qu'on n'en dit pas plus maintenant, puisqu'on va consacrer dans la deuxième partie de l'émission sur ce sujet-là, et donc on va revenir un petit peu en détail sur le contenu de la loi et puis sur les prochaines échéances qu'il va y avoir, puisqu'il y a aussi une date de mobilisation qui est tombée assez récemment, qui aura lieu le 21 janvier.
Voilà. Et puis sinon, ben, pour cette année 2024, nous avons aussi localement des perspectives de mobilisation et bon, de s'investir, hein, avec tout d'abord le 17 février à la ferme du roi d'Espagne, la fête de l'agriculture paysanne. Comment nourrir le monde, hein, comment nourrir localement les gens et c'est une fête, c'est une fête, donc il y aura des aspects fêtes. Normalement, la troupe de théâtre d'Attaque Marseille y jouera quelques sketchs le matin, pendant que se tiendra un marché paysan. Et puis l'après-midi, il y aura des débats, plusieurs débats. En fin d'après-midi, une conférence gesticulée de Mathieu. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Une conférence gesticulée sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est intéressant, ça éclaire bien sûr le sujet. Et puis, ben, le soir, ça sera des concerts dansants, plutôt de musique latino-américaine. J'ai pas encore les noms précis là, parce qu'on n'avait pas encore toutes les réponses, mais voilà. Ça sera normalement une belle fête à la ferme pédagogique du roi d'Espagne à Marseille. Et les organisateurs, c'est bien sûr la Confédération paysanne en premier lieu et la DEAR, association liée à la Confédération paysanne. Mais il y a aussi les AMAP de Provence, les Paniers marseillais, Attaque Marseille, donc, et quelques autres hein, qui organisent jour après jour cette initiative. Donc voilà, ça va nous bouger un peu. Je vous rappelle quand même qu'on aura aussi notre assemblée générale d'Attaque Marseille le 23 mars, bon, comme tous les ans, hein, mais notez déjà la date si vous voulez. Et puis, sur Marseille, va se passer un événement européen. Ça s'appelle d'un nom barbare parce qu'en anglais, EXA, donc pour European Common Space for Alternative, admire mon accent anglais. Et ça se tiendra. Ah, tu admires, hein?
Ah
Oui.
oui, totalement.
À la friche de la Belle de Mai, principalement à la friche de la Belle des Mai, peut-être dans des petites salles alentours, du 26 au 28 avril 2024. Parce qu'il faut savoir que cette année, il n'y aura pas d'une diversité d'été des mouvements sociaux comme il y a généralement hein, auxquels Attaque participe avec d'autres mouvements sociaux parce que bah, il y a les Jeux Olympiques ça va être très compliqué de bouger tout ça donc de trouver des hébergements bon etc. Donc voilà, il n'y aura pas d'université d'été donc ça sera la rencontre importante au niveau rassemblant au niveau européen les mouvements sociaux et puis ça sera aussi quand même 6 semaines avant les élections européennes, il ne vous a pas échappé que dans les mauvaises nouvelles, il y a une forte montée de l'extrême droite, pas qu'en France, mais un peu dans d'autres pays européens aussi, et pas que européens. Et ben, du coup, un des axes centraux de cette rencontre, hein, ça sera contre l'extrême droite. Voilà. Et contre cette montée de l'extrême droite, avec un espoir bon, de peser un peu, hein, de mettre en valeur des choses qui donnent aux gens un autre espoir que l'égoïsme, la haine de l'autre, tu vois, enfin, ce
Monsieur.
genre de truc qui est en train de monter là. Voilà. Bon, nous, notre devise, c'est ça fait du lien par où ça passe. Voilà, mais on essaye de mettre en place des valeurs d'humanité, d'humanisme. De solidarité, et parfois c'est un peu compliqué, hein? Voilà.
Et puis il nous reste encore un événement, cette fois-ci organisé par Attaque avec Exception Rébellion, c'est ça?
C'est ça.
Ça sera donc la
C'est
projection
ça.
d'un film.
C'est ça. Donc c'est même Extinction Rebellion qui en est à
Ah,
l'initiative,
qui
qui
est,
nous a
pardon, d'accord.
sollicité.
Ouais.
Mais bon, on participe, hein? On
Voilà.
essaye de trouver l'intervenante notamment. Donc, Extinction Rébellion et Attaque Marseille vous proposent une super soirée cinéma le mardi 23 janvier à 19 h. Alors attention, ce qu'on a envoyé, on avait d'abord envoyé la date du 30, mais le 30, on va pas le faire parce que il y a le film Sabotage qui passera au Gyptis le soir. Donc, on ne voudrait pas être en même temps que le film Sabotage. Voilà. Donc, mardi 23 janvier à 19 h au local d'attaque chez Solidaire. Des femmes face aux missiles. C'est un film documentaire de Sonia Gonzalez qui date de 2021, qui dure 58 minutes. Et ce sera suivi d'un débat, peut-être un peu sur l'écoféminisme et sur cet événement qui, à l'époque, ne s'était pas baptisé écoféminisme. Hein. Qui s'est produit dans les années 80 en Angleterre, hein, le campement de protestation pacifique de Greenham Common, donc qui avait été créé en 1981 en réaction à l'annonce de l'arrivée de missiles nucléaires sur le sol européen et qui a duré pendant des années hein, avec des femmes dans ce camp donc qui s'opposaient. Avec leur corps à l'implantation de missiles sur place, une longue lutte qui est retracée dans ce film documentaire de Sonia Gonzalez. Je pense qu'elle a retrouvé, elle donnera la parole à des femmes qui y ont participé, hein, même si c'est vieux. Voilà. Donc, ça devrait être bien. Et pour en débattre, on a invité, on n'est pas encore tout à fait sûr de sa venue ce jour-là, mais elle était d'accord sur le principe. Jeanne Burgard-Coutal, qui est professeure agrégée de philosophie, elle est aussi enseignante de yoga, et elle a mené des recherches sur l'écoféminisme. Elle est notamment l'auteur, l'autrice de Être écoféministe, qui a été publié chez L'Échappée en 2020. Enfin, ça se passe au local, donc c'est entrée libre, mais on vous demandera quand même une participation aux frais, parce qu'on va payer les droits pour faire passer ce film. Donc ça sera une participation aux frais libres et selon votre bourse, mais voilà, c'est sympa de participer ce jour-là.
Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des mobilisations et des luttes, on va dire, phares pour cette
Ouais.
année 2024. Je pense
Je
qu'il y
crois.
aura d'autres occasions pour se mobiliser, mais on reviendra dessus lors de nos prochaines émissions. Il nous reste.
Juste un petit truc, parce que
Oui,
j'ai quand
pardon.
même oublié, pour le 17 février, c'est bientôt le 17 février à la ferme du roi d'Espagne, et je voulais dire que nous cherchons des bénévoles pour ce jour-là. C'est important, donc adhérents, adhérentes d'Attaque qui nous écoutaient, autres personnes qui avaient envie de vous joindre à cet événement. Il y a besoin de personnes, de bénévoles, d'abord pour un truc assez simple, hein, pour faire des gâteaux chez soi et pour les amener pour qu'ils soient vendus à un prix modique le 17 février. Donc vous pouvez les amener la veille ou les amener le matin du jour J, du 17 février. Et on fait également appel à des bénévoles ben, la veille et puis pendant toute la journée du 17 ben, pour confectionner les repas et le 17 pour ben, tenir l'entrée, tenir, enfin, surveiller que tout se passe bien,
Oui, que le
vendre la
légitime,
nourriture, etc.
bien
Hein,
sûr.
parce qu'il est attendu peut-être un millier de personnes, quoi. Hein, ou... Voilà, donc c'est bien si il y a des bénévoles qui se proposent sur cet événement.
Très
Voilà.
bien. Bon. Donc, bah écoutez, on va vous souhaiter encore une dernière fois une bonne et une heureuse année 2024. Et puis, on enchaîne sur la suite de l'émission avec un focus sur la loi Indigne, la loi immigration qui a été votée avant les vacances de Noël. Donc, on va faire une petite rétrospective et puis surtout une petite analyse des luttes en cours et de comment ça se mobilise, en tout cas sur Marseille, puisqu'il y a un collectif dont on parlera qui est très actif. Et voilà, on va vous expliquer un petit peu tout ça.
Super. Au revoir,
Allez,
Nico.
à très bientôt.
À bientôt.
Bon, j'étais assis là à l'armée du salut. Je faisais un atelier d'écriture. C'est comme ça qu'on dit. La plupart du temps, je suis pas chanteur, je suis pas la star que tout le monde connaît. Non, comme tous les artistes ratés, on finit soit prof, soit on fait des ateliers. Moi, je fais des ateliers. Des ateliers poésie au collège, à l'hôpital, à Emmaüs, à Brest. Les plus grands poètes que j'ai rencontrés, c'était des enfants, migrants, mineurs, isolés. C'était les gars du CPN à Nancy. J'ai rencontré des gens, je vous raconte pas, ça vous déchirerait le cœur. Et puis, je suis pas là pour recycler la misère, ou la joie de le faire, ou vous raconter ma vie. Celui qui croit que je raconte ma vie depuis le début, il a rien, mais rien compris. Bref. Bon donc, j'étais là à l'Armée du Salut à Paris avec mon petit atelier d'écriture de poésie. Ce jour-là, il n'y avait personne avec moi, j'étais tout seul, avec toute ma belle culture à partager, tout mon amour de l'humanité, seul comme un con, comme un rendez-vous raté, comme Guillaume Depardieu dans Les Apprentis ou comme Cluzet dans le même film, skieur d'escalier. Bref, j'étais mal embringué. Personne voulait écrire de la poésie. Ce jour-là, bizarrement, la misère avait autre chose à branler. Bref, il y a un petit gars qui rentre dans la salle et peut-être il a eu pitié de ma solitude. Il est rentré comme ça, dire bonjour. Bonjour, j'ai dit. Bonjour, Pascal, j'ai dit que je m'appelais. Enchanté, je lui ai serré la main. Bonjour, monsieur Pascal, il a dit. Et vous, comment vous vous appelez? Hassan. Bonjour, monsieur Hassan, j'ai dit. J'ai dit comme ça, pour causer, poli, gentil. Vous venez d'où, monsieur Hassan? Centrafrique. Ah, ouais, ouais. Bah, c'est loin, j'ai dit. Ça a dû être un sacré voyage, j'ai dit. Oui, il a dit, oui, oui. Un jour, j'ai dit, faudra que vous me racontiez, j'ai dit, manière d'être gentil, poli, manière d'être bien éduqué. Un jour, comme ça, faudra que vous me racontiez. Ah, d'accord, il a dit. Et là, il m'a tout raconté, d'un coup, dans la salle aussi déserte que le désert de Libye, monsieur Hassan, il m'a tout raconté. L'arrivée d'une milice dans son village, son père et son frère sous ses yeux assassinés, le village évacué, la fuite au Soudan, au Darfour, la faim, la peur, le retour au pays, 2 ans plus tard, sa mère et ses sœurs disparues, la traversée du désert dans un camion surbondé. Ah oui, quand même, vous aviez quel âge? J'ai dit déjà accablé, 12 ans, il a dit, comme si c'était une banalité. Le désert libyen, la soif, les escroqueries d'esclavage, les camps de réfugiés, le passage en Tunisie, il a fait toutes les villes de Tunisie une par une. Il m'a raconté toutes les villes de Tunisie une par une, les petits boulots, les lavage, les escroqueries, les passeurs, et puis sa première traversée, bing, le moteur coule et tombe au fond de la mer. 85 personnes sur le canot gonflable qui coule avec. Je dis quoi, il y avait 85 personnes sur le canot? Oui, monsieur Pascal, 85 personnes qui ont coulé. Moi, j'ai eu de la chance. Ah oui, de la chance. Il a dit qu'il avait eu de la chance. Oui, moi, j'ai eu de la chance. J'avais nagé, j'ai nagé, nagé, nagé jusqu'à une bouée rouge. J'ai agrippé, glissé, agrippé. J'avais froid, froid. Il y a un bateau qui s'est arrêté, qui m'a sauvé. J'ai travaillé sur le bateau pour payer mon voyage, mais le bateau, il était tunisien. Alors, il m'a ramené là où je venais. J'ai été voir le passeur pour dire pour les gens quand même. Et le jour où je suis arrivé devant le passeur, il a tué, bam, bam, 2 personnes devant moi avant que je lui parle. Alors j'ai rien dit pour le naufrage et les gens noyés. C'était plus sage, vous savez. Puis encore eu l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Monsieur Hassan, il est remonté sur un autre bateau gonflable, 85 personnes de nouveau. Là, c'est un paquebot qui les a récupérés. Bon, autant vous dire que moi, là qui vous parle, monsieur Hassan, il m'avait tué. Sans compter tous les trucs que j'imaginais qu'il n'oserait jamais raconter. Tous les trous dans son récit, suffit de les remplir d'encore plus d'horreur. Et là, t'as le tableau XL de la barbarie. J'étais là, ahuri, accablé, souriant comme un con, sourire gêné de douleur aigre, genre mal au ventre, chiasseux mais sans toilette. Du coup, toute son année en Italie qui m'a raconté aussi l'esclavage, les petits boulots, l'escroquerie. Je me souviens plus, je peux pas vous raconter. Je regardais ses yeux, sa chemise, son bracelet. Il avait des belles lunettes, un peu dorées. La traversée des Alpes, ok, pareil, j'ai un peu zappé, je manquais d'oxygène. La frontière, la neige, les cachettes, les mains, les pieds, je les ai zappés, je m'en excuse. Et puis, encore les trains, TG, les contrôleurs, les descentes, les flics, les remontées. Ok, 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 à l'arrivée à la gare de Lyon, monsieur Hassan, il était très fatigué, genre un peu mourant. Alors la sécurité à la descente, ils ont dit, ok, va, on veut plus te voir, ils l'ont laissé. Moi, j'étais déjà complètement mort, allongé par terre, liquéfié, je m'enfonçais dans les dalles de la moquette. Et monsieur Hassan, il continuait, le camp, porte de la chapelle, la manche sur le périph, les tentes éventrées, les duvets, les affaires brûlées. Moi, j'étais déjà sous terre, monsieur Hassan racontait la descente de CRS sur le camp. Finalement, finalement, l'arrivée à l'armée du salut. Et quel âge ça vous fait maintenant? Il a dit 22 ans. À la fin, il me dit, et vous, vous faites quoi, monsieur Pascal? Honnêtement, c'est pas impossible que, même livide comme j'étais, j'ai rougi. J'ai eu quand même le culot de lui dire, je fais ça, regardez, c'est de la poésie. Quelle honte quand même. Ah oui, c'est bien, il m'a dit. Si vous voulez, on peut en écrire ensemble, j'ai dit. Je crois qu'il a eu l'impression que j'essayais de le refaire, genre les petits boulots, l'esclavage, l'escroquerie. Il a dit, une autre fois, merci, c'est gentil. Au revoir, monsieur Pascal. Au revoir, monsieur Hassan, merci. J'ai pris mes petits poèmes, mon petit cartable, et je suis rentré chez moi avec ma petite merde de poésie.
La loi immigration a été votée le 19 décembre par le Rassemblement national, les Républicains et les 3/4 des députés de la majorité présidentielle. Une majorité d'ailleurs qui s'effrite et qui devient de plus en plus relative. Cette loi est imprégnée d'idéologies d'extrême droite. Refus par principe de l'égalité de droit, soupçons permanents contre les étrangers, selon toujours les mêmes poncifs éculés, et d'ailleurs insupportables, qu'ils viendraient profiter d'un système social, qu'ils constitueraient une menace et amèneraient des troubles à l'ordre public. Dans le compromis à la base du texte final, qui est passé en CMP, en commission mixte paritaire, La droite, de plus en plus inspirée par l'extrême droite, a lourdement pesé sur le gouvernement affaibli et en plein dévoiement pour que l'esprit du vote du Sénat, qui a considérablement durci le texte initial, demeure présent. La double obsession de l'exécutif, de ne pas utiliser l'article 49.3 et de réaliser des économies budgétaires sur le dos des populations, ont achevé de le décrédibiliser. En d'autres termes, la droite et le gouvernement, unis dans le même déshonneur qui, hélas, entraîne également celui du pays, auront réussi à déplacer le débat politique encore un peu plus sur le terrain des mouvements d'extrême droite. Le Rassemblement national a d'ailleurs salué une énorme victoire idéologique de la préférence nationale. Si depuis plusieurs mois, le gouvernement a contribué à respectabiliser le Rassemblement national, c'est désormais son programme qu'il applique. Grave dérive qu'il faut plus que jamais dénoncer et combattre. Le Conseil constitutionnel doit statuer encore sur l'incompatibilité de certains articles de cette loi avec la Constitution française, mais le gouvernement est allé tellement loin que la logique xénophobe d'ensemble demeurera, même si les aspects les plus répressifs sont supprimés par le Conseil constitutionnel. C'est donc bien l'ensemble de la loi qui doit être abrogée. Une loi qui d'ailleurs apparaît également en contradiction avec d'autres textes internationaux, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, voire la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Que contient réellement cette loi immigration? Je vous propose de vous présenter quelques éléments qui finiront par vous convaincre du caractère raciste des intentions du gouvernement. Tout d'abord, concernant la régularisation des sans-papiers. La majorité s'est résignée à une version plus restrictive que celle du projet de loi initial, en donnant aux préfets un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Il s'agira d'un titre de séjour d'un an, délivré au cas par cas, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Cette expérimentation ne s'appliquera que jusqu'à fin 2026. Le camp présidentiel n'a eu gain de cause que sur un point, la possibilité pour un travailleur sans papier de demander ce titre de séjour sans l'aval de son employeur. Ensuite, on a parlé de déchéance de nationalité, de droit du sol. Eh bien, la majorité présidentielle a également fini par donner son accord à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Concernant le droit du sol, elle a concédé la fin de l'automaticité de l'obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers. Il faudra désormais que l'étranger en fasse la demande entre ses 16 et ses 18 ans. Autre restriction obtenue par la droite, en cas de condamnation pour crime, toute naturalisation d'une personne étrangère née en France deviendrait impossible. Ensuite, il y a l'instauration des quotas migratoires. Cette instauration, fixée par le Parlement pour plafonner pour les 3 années à venir le nombre d'étrangers admis sur le territoire, hors demandeurs d'asile, est considérée comme institutionnelle par le camp présidentiel. Mais ce dernier a quand même accepté d'intégrer cette mesure, ainsi que la tenue d'un débat annuel sur l'immigration au Parlement dans le texte de la commission mixte paritaire, pour satisfaire les Républicains, avec l'espoir à peine dissimulé que le Conseil constitutionnel se charge de le retoquer. Ensuite, concernant le regroupement familial, le durcissement des conditions du regroupement familial voté par le Sénat se retrouve pour l'essentiel dans le texte final, avec notamment une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois contre 18, la nécessité de ressources stables, régulières et suffisantes, et de disposer d'une assurance maladie, ainsi qu'un âge minimal du conjoint de 21 ans. Autre mesure phare, et totalement inique, c'est l'allongement de la durée pour percevoir les allocations familiales. Pour rappel, les prestations familiales sont versées aux familles résidant légalement en France, et ce, quelle que soit leur nationalité et le statut juridique de l'union, mariage, PACS, union libre, en cas de vie en couple. Le délai permettant à une personne étrangère régulièrement installée sur le territoire national de bénéficier des prestations familiales passerait de 6 mois à 30 mois pour une personne qui travaille et 5 ans pour une personne ne travaillant pas. Le délai de 5 ans pour les personnes étrangères ne travaillant pas s'appliquerait également pour les allocations personnalisées au logement, ce qu'on appelle les APL. Le délai de 6 mois actuellement applicable répond une logique. Il correspond à l'un des critères permettant de déclarer une personne comme résidente fiscale. Rappelons que pour déterminer la résidence fiscale, plusieurs critères sont pris en compte.
les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles n'établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire, ou encore celles qui ont en France le centre de leur intérêt économique. Pour Attac, ces critères de bon sens devraient logiquement s'appliquer en matière de prestations sociales. Le pouvoir et ses alliés ont au contraire choisi de les durcir. Une personne étrangère pourrait donc à l'avenir être considérée comme résidente fiscale en France, avec l'obligation de déclarer bien sûr ses revenus, payer des impôts et des cotisations sociales comme les nationaux, mais ne pas être considérée comme une résidente sociale et donc être privée de certains droits durant une longue période, simplement parce qu'elle est étrangère. Le pire, n'étant jamais sûr, les personnes qui ne travaillent pas seront davantage pénalisées puisque pour elles, le délai sera allongé de 5 ans. Outre l'injustice de ce rallongement doublement discriminant qui contrevient au principe de solidarité de la sécurité sociale, cette mesure pénalisera les enfants des familles concernées et les appauvrira. Profondément antisociale, elle mérite également d'être déclarée anticonstitutionnelle. Autre sujet qui ne sera pas réformé cette année, mais qui est en sursis, c'est l'aide médicale d'État. Pour rappel, hein, l'aide médicale d'État, qu'on appelle aussi AME, a des objectifs de solidarité et de lutte contre l'exclusion. L'AME coûte actuellement 935 millions d'euros par an, soit environ 0,5% des dépenses de santé. La future réforme promise par le gouvernement à la droite et à l'extrême droite s'appuierait sur les propositions du rapport Stefanini-Evin pour un resserrage du dispositif. Ce rapport nuance cependant fortement l'argument de la droite et de l'extrême droite selon lequel l'AME crée un appel d'air migratoire. Sur ce point, le rapport se montre clair. L'AME n'apparaît pas comme un facteur d'attractivité pour les candidats à l'immigration, relèvent les auteurs qui précisent que la consommation trimestrielle moyenne de soins par personne est restée stable en dépit de l'augmentation des coûts du soin, de 642 euros en 2009 à 604 euros en 2022. Par ailleurs, selon le rapport, l'AME est un dispositif sanitaire utile, globalement maîtrisé et qui ne génère pas de consommation de soins faisant apparaître des atypismes, abus ou fraudes structurelles. C'est l'affirmation par la nation d'un principe humanitaire et éthique et la protection de la santé individuelle des personnes et de la santé collective de la population résidente en France. Néanmoins, ce rapport préconise aussi un resserrement de l'AME. Et ce, alors qu'il fait d'une part l'objet d'un taux record de non-recours, 49%, et d'autre part qu'il est plus restrictif en France que dans de nombreux pays. En effet, l'AME n'est pas un dispositif universel. Elle ne concerne que les personnes étrangères en situation irrégulière sur condition de ressources, inférieures à 809 euros par mois pour une personne seule depuis avril 2023. Je cite, contrairement au droit en vigueur dans d'autres pays européens dans lesquels l'accès aux soins est prévu pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière, notent les auteurs du rapport, dont fait partie d'ailleurs un ancien directeur de campagne de François Fillon en 2017, issu donc de la droite dure. Relevant que le nombre de bénéficiaires augmente depuis 2019, les auteurs du rapport proposent des adaptations. Ils proposent de retirer le droit à l'AME aux personnes frappées de mesures d'éloignement pour motif d'ordre public. Ils proposent surtout de resserrer certains critères d'éligibilité. En particulier, seuls les ayants droit mineurs devraient, selon les auteurs, bénéficier de l'AME, alors qu'actuellement cette condition n'existe pas pour les enfants. Il propose enfin de prendre en compte les ressources de l'ensemble du foyer. L'engagement du gouvernement à réformer l'AME repose-t-il sur des bases idéologiques et ou sur des considérations purement tactiques? Peu importe au fond, car dans les deux cas, en participant du déplacement du débat public vers l'extrême droite, il s'est déconsidéré en légitimant ce qu'il prétendait combattre. Cette loi raciste et xénophobe, comme nous venons de le dire, et comme nous venons certainement de le prouver, nécessite une mobilisation massive. À ce titre, Attac, aux côtés de plus de 400 collectifs, associations, syndicats, partis politiques, appelle à manifester le dimanche 14 janvier pour demander l'abrogation de cette loi asile et immigration. Des manifestations sont d'ailleurs prévues sur tout le territoire, notamment dans toutes les grandes villes. À Marseille, le cortège s'élancera à partir de 14 h de la porte d'Aix. À noter également une seconde manifestation qui aura lieu le 21 janvier, à l'appel de 201 personnalités, dont Yuli Yamamoto, qui est porte-parole d'Attaque, et une manifestation qui devra donner encore plus d'ampleur à la mobilisation après les manifestations qui auront donc lieu le 14 décembre. D'ici là, nous vous invitons sur vos lieux de travail, d'études, de vie, de continuer à mobiliser et à informer vos collègues, vos amis sur les conséquences de cette loi dictée par l'extrême droite. La mobilisation doit être conséquente, massive, pour pouvoir faire reculer le gouvernement et espérer l'abrogation de cette loi.
Oh, make me over. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my bed.
Et bien voilà, notre émission de la gueule ouverte se termine. Nous vous souhaitons à nouveau une bonne et heureuse année 2024 et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, salut, à très bientôt!
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye!